chef de file des soins infirmiers, assurant la sauvegarde des hautes normes de qualité, cherchant à promouvoir l'enseignement, la recherche, l'encadrement, le soutien et le développement des compétences et de l'excellence clinique. Nous sommes la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu. Bienvenue à Savoir et Stéthoscope.
Bonjour, bienvenue à cet épisode du balado Savoir et Stéthoscope. Je m'appelle Sophie Martin, je suis conseillère en soins infirmiers et je suis accompagnée de...
Julie Blanchette, aussi conseillère.
Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de la recherche en soins infirmiers afin de démontrer que la recherche est accessible et pertinente pour les professionnels en soins infirmiers. La recherche est initialement un outil de valorisation et d'amélioration de nos soins.
Et d'ailleurs, on accueille aujourd'hui avec nous en studio une experte, Mme Émilie Gosselin, qui est professeure agrégée à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke et qui est chercheure affiliée au Centre de recherche du CHU. Alors, son programme de recherche vise à concevoir et évaluer des interventions pour promouvoir la qualité et le bien-être dans les unités de soins aigus et critiques, et ce, autant pour les patients que pour le personnel soignant, les familles. Donc, elle a mené de nombreux projets de recherche clinique en partenariat avec le CIUS. Alors, veux-tu nous les présenter, Émilie?
Ben oui, avec plaisir. Ça me fait vraiment plaisir d'être là ce matin avec vous. Parmi mes projets de recherche, là, j'ai un projet de recherche qui s'appelle Doc2You. C'est une bibliothèque numérique d'apprentissage là, qu'on a implantée dans un projet pilote dans la trajectoire de RAC, la récupération améliorée après la chirurgie. J'ai aussi un autre projet sur lequel j'ai travaillé là, avec une conseillère cadre sur l'évolution de la pratique suite à l'implantation d'une règle de soins pour encadrer la pratique qui est liée à la thérapie intraveineuse en médecine-chirurgie, dont on va reparler aujourd'hui, je pense, dans le balado. J'ai plusieurs autres projets, là, un en lien avec l'évaluation de l'acceptabilité et la faisabilité du protocole d'analgésie multimodale, là, le protocole de douleur qui est implanté dans plusieurs unités à travers tout le CIUS de l'Estrichu.
Nous aurons aussi, je pense, là, la possibilité d'entendre deux infirmières puis une usagère partenaire qui vont venir nous parler là, de leur expérience avec la recherche. Donc, on est vraiment choyés de t'avoir avec nous, Émilie, puis j'ai hâte là, de partager avec toi aujourd'hui dans notre balado.
Donc, merci d'abord, Émilie, d'avoir accepté de participer à notre balado. Et on aimerait commencer par une question assez simple. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement en quoi concrètement ça consiste la recherche clinique?
Oui, c'est une super bonne question. En fait, la recherche clinique, c'est vraiment la recherche avec l'humain. Ça a pour but l'amélioration des diagnostics, des traitements pour des différentes maladies ou des blessures de nos patients. Puis le but ultime, c'est d'améliorer la santé et la qualité de vie là, de nos patients. Ça se différencie quand même un peu de la recherche fondamentale que peut-être vous connaissez plus ou qui est plus classique. Donc, c'est la recherche qu'on peut nommer la recherche en sciences pures. Là, c'est vraiment des travaux qui sont plus expérimentaux ou théoriques pour développer là, des nouvelles connaissances sur des phénomènes qui sont plutôt observables. Là. Donc, un exemple qu'on voit souvent, c'est les gènes ou développer là, des nouveaux médicaments, par exemple.
J'imagine qu'il y a plusieurs types de recherche clinique, d'ailleurs.
Oui, effectivement. En fait, on peut voir toutes sortes de types de recherches, par exemple, en lien avec les données qu'on récolte. Il y a des données qui sont plus quantitatives, qu'on connaît bien, là, des questionnaires, des mesures physiologiques, le poids, la taille. Il y a aussi des questionnaires plutôt qualitatifs. Là. On peut aller chercher des données à travers des entrevues, aller chercher de l'expérience des gens là, sur certains phénomènes. Pour faire de la recherche, on a aussi différentes méthodes scientifiques, comme des études sont plus observationnelles. Là, donc, on va vraiment observer, on ne fera pas d'intervention. On va vraiment plutôt regarder là, le déroulement naturel de la maladie pour identifier, par exemple, des facteurs de risque ou bien comprendre là, l'expérience de soins des gens. On peut aussi aller là, avec la recherche qui est plus expérimentale ou de la recherche en intervention. Donc là, on va vraiment tester des innovations, des médicaments, des programmes de santé pour promouvoir là, vraiment la santé de nos patients. Puis on va pouvoir aller voir les effets indésirables là, et les vrais effets de chacun de ces programmes-là. Voilà. Chacun de ces types de recherches-là a des forces, des limites. Il y a des avantages, des inconvénients à tout dans la vie. Puis en fait, ce qui est important de savoir, c'est que tous les types de recherches sont vraiment importants. C'est l'accumulation de preuves qui va nous permettre là, de vraiment changer nos pratiques.
C'est vraiment intéressant de mieux comprendre qu'il y en a fait plusieurs types là, de recherches. Est-ce que tu pourrais nous dire dans quel type de recherche on va plus retrouver des infirmières? Mais pourquoi c'est important pour le personnel infirmier là, de s'impliquer en recherche?
Oui, les infirmières vont être impliquées dans tous les types de recherches, honnêtement. Je dirais beaucoup plus en recherche clinique, mais il y en a aussi des infirmières qui font de la recherche en recherche fondamentale. En fait, sur quoi ça porte la recherche en sciences infirmières? Je vous ramène à vos cours de philo, fondement peut-être, donc aux 4 métaparadigmes de la profession infirmière. Un métaparadigme, c'est la perspective d'ensemble d'une discipline, de son domaine propre. En sciences infirmières, il y a 4 concepts centraux, donc la personne, le soin, l'environnement et la santé. Donc, la recherche en sciences infirmières s'articule à travers ces 4 différents métaparadigmes-là. Donc, vous voyez que c'est assez général. On a vraiment, vraiment un grand terrain de jeu là, pour faire de la recherche en sciences infirmières. À l'École des sciences infirmières, peut-être pour vous positionner, si jamais ça vous intéresse, là, on a 6 expertises parapluies qu'on a développées. Donc, je vais vous les nommer ici. En fait, donc, le premier, c'est le développement, l'organisation, l'évaluation de stratégies de soins et interventions. On a aussi un axe là, en lien avec la pédagogie, l'enseignement et l'apprentissage, les déterminants de la santé, les systèmes de santé apprenants et les technologies numériques de la santé, l'humanisme et les relations humaines, la promotion et la prévention de la santé. Donc, vous voyez qu'on a quand même là, plusieurs champs de recherche là, à l'École des sciences infirmières.
Puis pourquoi que c'est important, la recherche en sciences infirmières?
Oui, ça, c'est vraiment une question qui est importante pour motiver les gens à aller faire de la recherche ou à participer à la recherche. Donc, quand on pense à la recherche en sciences infirmières, on pense toujours à produire la recherche. Pourquoi c'est important de produire de la science? En fait, le U dans CIUS de l'Estrichu, c'est pour universitaire. Donc, on a une mission universitaire au CIUS de l'Estrichu, donc qui va nous permettre de développer des connaissances pour contribuer à l'amélioration des soins et services. Ça va permettre aussi de contribuer à des remises en question, influencer les pratiques, les décisions. On n'est pas toujours d'accord avec ce qui se passe. La recherche peut venir contribuer à influencer les décisions qu'on prend. Ça permettra aussi de contribuer à la formation de la relève scientifique, tous les étudiants à la maîtrise, au doctorat. Ensuite, on va pouvoir faciliter le rayonnement, la visibilité de l'établissement et contribuer à une culture de recherche et d'actualisation des pratiques pour favoriser la sécurité des soins. Donc, maintenant qu'on a parlé un peu, là, en fait, plus de l'aspect contribuer à la recherche, il y a aussi l'utilisation de la recherche qui est importante puis qu'on oublie, je pense, quand on travaille là, au quotidien parfois. Donc, en fait, outre la mission universitaire qu'on a comme établissement, on est tenu par différentes normes professionnelles, par le code déontologique, de fonder notre pratique sur des résultats probants. Donc, c'est vraiment important là, de bien comprendre la littérature pour être en mesure de guider les patients dans la prise de décision. En fait, je vais vous lire un article du Code des professions, l'article 18. Donc, l'infirmière et l'infirmier doivent exercer sa profession selon les normes de pratique et les principes scientifiques généralement reconnus. Donc, à cette fin, il doit assurer la mise à jour et le développement de ses compétences professionnelles. Donc, ça veut dire, en fait, que vous êtes tenu d'utiliser la science puis de fonder votre pratique vraiment là, basée sur les résultats issus de la littérature récente.
C'est effectivement tellement un fondement de notre profession. C'est tellement important. Puis, Émilie, l'épisode précédent parlait de la diversité de la pratique. Là, quelques épisodes avant celui-ci parlaient de la pratique infirmière. Là, puis, je vais poser la question finalement. Une infirmière en recherche, ça fait quoi finalement au quotidien?
Une infirmière en recherche peut avoir plusieurs rôles à travers tout un processus de recherche. Un projet de recherche, c'est long, puis il y a plusieurs étapes dans ce processus-là. Donc, ils peuvent contribuer dès le début, dès l'identification d'un besoin de recherche ou en lien avec la recherche de solutions. En fait, la recherche, ça peut provenir du chercheur qui va identifier un problème dans la littérature, mais ça peut aussi venir du milieu clinique qui voit une problématique vraiment réelle dans le terrain. Et là, si vous remarquez ce type de problématique-là, vous pouvez aller transmettre votre problème à une conseillère en soins, par exemple, ou à une conseillère cadre, ou directement adresser le problème à un chercheur. Et puis là, on va pouvoir démarrer un projet de recherche là, en lien avec cette problématique-là que vous avez identifiée. Donc, ça nous permet vraiment de faire de la recherche qui est ancrée dans les besoins du milieu. Donc, ça, c'est une chose que vous pouvez faire là, comme contribution, comme infirmière là, directement en lien avec la recherche. Ensuite, tout ce qui est en lien avec la conception du projet de recherche, comment on va déterminer les différents instruments de mesure, par exemple, les choix des méthodologies, le recrutement de nos patients, quels patients aborder. Vous pouvez venir contribuer, nous dire est-ce que c'est faisable, est-ce que ça fait du sens pour vous dans votre réalité terrain qu'on aille vers ce type de méthodologie-là. Par contre. Ensuite, on peut aussi aller en lien avec la collecte de données. Vous pouvez vraiment collaborer, coordonner selon votre rôle que vous avez dans l'établissement. Donc, vraiment aller appliquer les interventions qu'on veut tester dans le cadre du projet de recherche, aller repérer des patients éligibles, nous aider à les identifier pour qu'on puisse aller les recruter. nous aider à leur faire compléter des questionnaires, distribuer des entrevues, partager votre expérience. Vous pouvez aussi être invité à participer vous-même comme participant de recherche. Ça arrive aussi, là, la recherche sur les infirmières. On veut améliorer les pratiques, mais aussi on veut améliorer l'enseignement pour vous. On veut améliorer la gestion pour vous. Donc, il y a quand même des choses là, qu'on peut faire de votre côté. Ensuite, il y a l'analyse et l'interprétation. En fait, quand on va arriver à analyser nos résultats de soins, nos résultats de recherche, par exemple, mais des fois, il y a des choses qui se sont passées dans le milieu clinique qui peuvent venir nous aider à bien interpréter, à bien comprendre qu'est-ce qui explique nos résultats, c'est quoi le lien avec la réalité clinique. Donc, on va pouvoir là, aller chercher différents facteurs. Ça pourrait nous permettre là, de mieux analyser, interpréter qu'est-ce qu'on va produire comme résultat, qu'est-ce qu'on va diffuser à la fin. Et en fait, la partie qui est la plus importante, c'est le transfert de connaissances. Donc, rester informé des différents résultats de projet pour pouvoir les implanter dans votre pratique, changer votre pratique, soyez pas résistant au changement. Je vous encourage vraiment là, à embrace, je ne sais pas c'est quoi le mot en français, mais embrace les résultats de recherche, puis changer votre pratique là, en fonction des nouvelles données probantes. Agissez en modèle de rôle donc pour vos différents, pour vos collègues.
C'est drôle parce que moi, je fais un petit peu un parallèle avec la notion d'évaluation puis de contribution à l'évaluation. Hein, tu sais, identifier des problèmes ou des besoins, collaborer à la collecte de données, à l'analyse, à l'interprétation finalement. En tout cas, je trouvais ça...
Tout à fait. Puis je trouve vraiment aussi, ton explication démontre que même si on n'est pas officiellement une infirmière de recherche, on peut toutes contribuer, on peut toutes participer à l'objectif finalement de la recherche là, qui est vraiment primordial dans notre pratique. Là.
Oui, puis justement, je pense que vous êtes allé voir, en fait, Marie-Ève, qui est infirmière aux soins intensifs, chirurgicaux au CHU Fleurimont, et qui a partagé son expérience. De ce que je comprends, elle a participé à un projet de recherche qui visait à mieux comprendre la transition des infirmiers et infirmières débutants dans les soins intensifs. Et c'est un projet qui cherchait à mieux soutenir leur développement professionnel pour augmenter donc la rétention, la satisfaction au travail et la motivation. Et que l'objectif était de comprendre comment ces nouvelles infirmiers et infirmières-là apprennent à prendre des décisions critiques dans un environnement exigeant comme les soins intensifs.
Mais c'est vraiment un sujet intéressant, mais surtout, c'est important. Si on comprend mieux ce que les nouvelles infirmières vivent, bien, j'imagine qu'on va faciliter ensuite cette transition-là qui n'est pas toujours facile. Là. Ça doit vraiment être pertinent là, de participer à ces recherches-là et à ces études-là.
Ça doit. Donc, écoutons justement ce que Marie-Ève a retiré de cette expérience-là.
Bien, écoute, moi, ça fait à peu près 17 ans que je suis infirmière, puis c'est la première recherche que je fais. Donc, j'ai été surprise. J'ai bien aimé ça. Je pensais pas apporter quelque chose. On dirait qu'on va là à reculons. Mais finalement, pour vrai, c'était très concret. Puis moi, c'est un sujet, les nouvelles infirmières, qui m'attire beaucoup aussi, que je trouve très important. Donc, qui est souvent un petit peu oublié. Donc, tu sais, au début, t'as pas l'impression d'être à ta place, mais finalement, pour vrai, c'était facile, entre guillemets. Fallait quand même discuter, mais on voyait plein de points de vue différents, dans des milieux différents. J'ai trouvé ça très intéressant.
Je trouve ça important de valoriser les implications là, dans ce genre de projet de recherche, puis de voir que ça a des répercussions vraiment concrètement, là, puis positives, là, autant sur les usagers que sur pour le personnel infirmier.
Ben oui, en effet, je suis vraiment, vraiment d'accord. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'impact de la recherche là, sur la pratique infirmière, là, par exemple. En fait, premièrement, ça va vraiment nous permettre de s'appuyer sur des données probantes pour prendre des décisions cliniques qui sont bien axées, là, bien axées sur les besoins de nos patients. Puis on va pouvoir ainsi là, améliorer la qualité des soins. Ensuite, bien, la participation à la recherche, ça va vraiment nous permettre de stimuler la pensée critique, l'esprit d'analyse, le développement de nouvelles compétences chez nos infirmières. Ça va aussi ouvrir la voie à des nouvelles approches technologiques, des stratégies de soins qui favorisent l'innovation là, dans la pratique.
Ça améliore assurément aussi les résultats pour les patients. Donc,
Oui, en fait, effectivement, là, il y a des soins qui sont basés là, sur la recherche. Ça va vraiment contribuer à des meilleurs résultats pour les patients, tels que des taux de guérison là, qui sont plus élevés, une réduction des complications et une amélioration de leur qualité de vie.
Mais aussi, ça doit avoir un impact là, certainement sur le système de la santé en général, là, toutes ces recherches-là, puis ces découvertes-là, puis ces optimisations-là que vous apportez.
Bien, effectivement, en fait, la recherche, ça peut vraiment aider à identifier des approches de soins qui sont plus efficaces ou plus efficientes. Donc, ça va nous permettre vraiment d'utiliser à meilleur escient là, les différentes ressources du système de la santé qui en ont définitivement besoin là, en ce moment là, d'être de plus en plus efficace là, pour pouvoir là, permettre d'assurer l'accessibilité aux soins là, à l'ensemble de la population.
Tout à fait.
Ensuite, il y aura aussi les résultats de la recherche qui peuvent influencer les politiques de santé et les pratiques en matière de soins infirmiers, contribuant à un système de santé qui est plus performant. Des fois, on n'est pas content de ce qui se passe en santé ou des politiques de santé. On a vraiment un levier avec la recherche. Ça parle les données probantes, les chiffres aux gestionnaires, aux politiciens. Donc, c'est important là, d'aller créer ce type de données-là. Et finalement, mais c'est sûr que ça nous permet de valoriser le rôle des infirmières, de renforcer notre crédibilité en tant que professionnels de la santé.
Donc, on va aller écouter justement une de nos collègues, conseillère en soins infirmiers, Maude Théberge, qui a participé à une recherche, mais plus multidisciplinaire. Alors, on va écouter un peu là, ce qu'elle va nous expliquer par rapport à son rôle dans cette recherche-là.
Pour ma part, mon rôle dans le projet de recherche sur la thérapie intraveineuse était vraiment au niveau de la collecte de données. Donc, comme conseillère en soins infirmiers, on se déplaçait sur les unités de soins qui étaient ciblées par le projet de recherche. Ensuite, on déterminait les usagers qui correspondaient aux critères du projet de recherche. On allait à leur rencontre pour compléter 3 questionnaires. Un premier questionnaire sur leur perception, eux, comme usagers face à leur cathéter intraveineux. Un deuxième questionnaire sur l'observation directement qu'on faisait du cathéter à ce moment-là. Puis finalement, un troisième questionnaire sur les notes d'observation de l'infirmière là, par rapport à la surveillance du cathéter. Ensuite, on prenait ces informations-là et on les entrait dans une banque de données informatique pour que les données puissent être compilées là, dans l'ensemble du SIUS pour les unités qui participaient au projet de recherche.
Je trouve ça vraiment très inspirant de savoir qu'il y a tous ces beaux projets de recherche-là qui ont lieu chez nous, mais aussi, je suis particulièrement fière de voir que la place qu'occupent les infirmières là, dans ces projets-là est vraiment primordiale. On a parfois l'impression que c'est très médical, la recherche. Mais comme tu nous en as parlé là, tout à l'heure, Émilie, les soins infirmiers ont une place dans la recherche.
Tout à fait. En fait, là, la place des soins infirmiers, c'est vraiment important en recherche, puis les bénéfices améliorent directement la qualité et la sécurité des soins à l'usager.
Bien, justement, Maude souligne bien cet impact-là qui est important là, sur la pratique clinique. On va l'écouter.
Ce que j'ai trouvé intéressant dans ma participation au projet de recherche, c'était que le projet faisait suite au déploiement de la règle de soins infirmiers sur la thérapie intraveineuse. Donc, c'était intéressant de voir de quelle façon la règle de soins avait été comprise par les professionnels qui travaillent auprès des usagers directement, puis de voir est-ce qu'elle était justement bien comprise, est-ce qu'elle avait été déployée de façon efficace pour que les professionnels, les gens sachent c'est quoi les bonnes pratiques actuelles. Donc, c'était vraiment intéressant de voir la corrélation, là, puis après de voir de quelle façon on pouvait bonifier justement la transmission de l'information aux professionnels pour améliorer la pratique infirmière qui entoure la thérapie intraveineuse.
Donc, tout à l'heure, on disait que la recherche avait un impact important aussi sur nos patients. Donc, justement, on est allé rencontrer Mme Etu, qui est une usagère partenaire qui a participé à plusieurs projets de recherche et qui voit également beaucoup de bénéfices là, pour les infirmières de s'impliquer dans cette recherche. Donc, on l'écoute.
À participer à un projet de recherche, tu vois le progrès que les gens font, puis ça t'amène à dire, ah, tiens, ça, je vais mettre ça dans ma pratique, ou ça. Tu sais, c'est la même chose que quand moi, j'observais quand j'étais enseignante, puis que j'observais des enseignants chevronnés ou que j'observais des stagiaires. Je veux dire, il y avait des affaires que je faisais comme, ah, tiens, gardons la bonne idée. Je pense que ça peut juste être du plus pour les infirmiers, les infirmières. Et la même chose pour les patients, je pense.
Émilie, aux infirmières qui nous écoutent et qui aimeraient intégrer petit à petit là, un peu plus la recherche clinique dans leur milieu, et, ou peut-être là, pour y participer, qu'est-ce que tu aurais à leur dire?
C'est de la musique à mes oreilles, cette question-là. En fait, il y a plusieurs choses là, que vous pouvez faire pour vous impliquer là, tranquillement là, vers le monde de la recherche. Là. Notamment, il y a plein de ressources de formation disponibles pour les infirmières gratuites en ligne, en français. Vous pouvez vous abonner à des listes de webinaires. Il y a différents réseaux thématiques du Fonds de recherche du Québec qui offre de façon régulière là, des webinaires en ligne, par exemple le réseau de recherche en intervention en sciences infirmières du Québec, le réseau de recherche en douleur, le réseau de santé numérique. Il y en a plusieurs autres, là, c'est ceux que je connais le plus, là, mais il y en a vraiment plusieurs autres. Si vous êtes motivé, vous pouvez aussi aller un peu plus loin, participer à des événements scientifiques, aller rencontrer des chercheurs, aller rencontrer d'autres cliniciens qui participent à la recherche. Donc, c'est vraiment un beau moment pour réseauter, échanger, partager ce que vous faites là, comme innovation clinique dans vos milieux. À chaque année, par exemple, il y a l'ACFAS qui se déroule. Là, c'est un congrès francophone avec plusieurs là, réseaux thématiques qui existent là, à travers le Québec. Il y a aussi la journée Chantal Caron de l'Université de Sherbrooke là, à l'École des sciences infirmières. On organise une journée de la recherche à chaque 2 ou 3 ans. Donc, vous êtes les bienvenus à contribuer là, à cette activité-là. Il y a aussi plusieurs événements de vulgarisation scientifique qui existent là, dans la région. Le Bistro Brain qui offre des soirées mensuelles là, de vulgarisation scientifique. Ils ont aussi un balado thématique qui s'appelle « La tête à Papineau ». Si vous aimez les balados, vous pouvez aller écouter ces balados-là. Donc, il y a vraiment plusieurs options là, pour consulter la science à travers des événements scientifiques. Si vous voulez vraiment comprendre comment ça fonctionne la recherche ou apprendre un peu plus en détail les méthodologies de recherche, nos choix, pourquoi on fait tel ou tel choix en recherche, il y a différents textbooks, là, des ouvrages, des livres qui existent que vous pouvez consulter. Il y en a qui sont plus spécifiques, il y en a qui sont plus génériques. Là, donc, vous pouvez aller consulter le tout. Et bon, finalement, si vraiment vous voulez vous lancer dans un rôle qui est plus actif en recherche, il y a différentes options. Vous pouvez explorer en fait en lien avec vos choix de carrière, prendre un poste d'assistant de recherche. C'est souvent des contrats au début, là, des petits temps, des courts laps de temps. Donc, ça vous permet vraiment de l'essayer puis de voir si vous aimez ça sans vous engager nécessairement dans une carrière pour toute votre vie. Puis ensuite, vous pouvez aussi essayer des postes, par exemple, de conseiller en soins ou de conseiller cadre. Puis au niveau académique, vous pouvez aussi prendre des décisions de faire un stage en recherche pendant vos études, pendant votre bac, pendant votre maîtrise. Vous pouvez rencontrer un prof à l'École des sciences infirmières pour discuter des différentes options aussi qui existent là, de cycle supérieur. Le répertoire des professeurs est disponible sur le site Internet de l'Université de Sherbrooke. Donc, vous pouvez aller voir nos différentes expertises, nos champs de recherche.
Émilie, j'ai une question pour toi. En fait, est-ce que tu as toujours su que tu voulais aller du côté de la recherche dans ton développement? Comment t'en es arrivé là, si je peux me permettre de te demander, parce que ça m'intéresserait de savoir, puis ça va sans doute inspirer là, de la relève peut-être qui nous écoute ou des infirmières qui voudraient peut-être aller vers la recherche, mais qui n'osent pas. On s'entend, ça peut paraître un peu intimidant, mais toi, comment ça s'est passé dans ton parcours?
C'est vraiment un heureux hasard. Moi, j'étais vraiment une infirmière de soins intensifs initialement. Quand j'ai terminé mon cégep, je suis tout de suite devenue CPI aux soins intensifs. J'ai vraiment aimé ma pratique clinique, les mains dans le sang. Je ne sais pas si je peux dire ça dans un balado.
Ouais, ouais.
J'ai aimé ça.
C'est super.
J'appréciais beaucoup ma pratique clinique, avoir les mains directement là, sur les patients, pouvoir échanger avec mes patients, travailler en équipe avec mon équipe de soins dans des situations de crise, dans des situations critiques. Donc, j'aimais vraiment, vraiment ça. Donc, j'ai continué mes études pour aller faire un baccalauréat, pour aller me familiariser, aller plus loin un peu là, dans mes connaissances. Vraiment comme infirmière clinicienne. Puis à la fin de mon... Pendant mon bac, en fait, j'ai rencontré quelqu'un... Je ne me rappelle pas qui. Ça devait être un professeur qui m'a parlé de la recherche, qui faisait une maîtrise, puis qui m'a dit « Hey, ça nous permet d'aller approfondir nos connaissances, aller développer de la science sur un problème clinique. On peut choisir sur quoi on veut apprendre plus. » Donc là, ça m'a vraiment accroché cette phrase-là. Je me suis dit « Bon, je vais explorer mes options, je vais aller voir la recherche, ça m'intéresserait-tu? » J'ai décidé de commencer une maîtrise en recherche avec Patricia Beaugoux, qui est maintenant votre DSI. À l'époque, elle était professeure-chercheure à l'École des sciences infirmières. Donc, j'ai fait ma maîtrise avec Patricia Bourgault, Stéphane Lavoie, sur l'empathie des infirmières. Est-ce qu'on est empathique avec nos patients, puis est-ce que ça l'influence la gestion de la douleur qu'on fait? Donc, d'être plus ou moins empathique avec notre patient, est-ce que ça change les soins qu'on donne? Donc là, ça m'a vraiment permis de découvrir le monde de la recherche, me rendre compte que j'avais beaucoup, beaucoup de pouvoir sur les données que je produisais, la science que je produisais, les thématiques que j'explorais, puis que mes études avaient des impacts dans la réalité clinique. Donc là, ça m'a donné envie de poursuivre. J'ai continué mes études au doctorat. Au doctorat, je me suis encore accroché les pattes. J'ai fait un post-doctorat. Puis finalement, je suis devenue chercheure, professeur là, à l'École des sciences infirmières. C'est vraiment une série d'événements qui ont fait qu'éventuellement, je me suis vraiment accroché les pattes puis je me suis fait prendre au jeu là, de la recherche.
Ça a bien donné. Donc, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le sujet de la place des usagers dans la recherche, parce qu'on en parle beaucoup des soins infirmiers, mais j'aimerais ça qu'on réécoute de nouveau notre usagère partenaire qui nous a bien expliqué les raisons qui l'ont motivé à participer à différents projets de recherche.
Le fait de mieux comprendre qu'est-ce qui t'arrive t'aide à, moi, en tout cas moi, m'aide à mieux me mobiliser pour me guérir. Tu sais, le fait de me remémorer ça, je veux dire, ça m'a aidé à mieux participer. Entre autres, à mieux participer et à être plus... tu sais, on nous demandait de faire certains exercices et puis ils nous ont donné des facilitateurs pour gérer notre anxiété. Alors, je me suis vraiment attardée à faire mes exercices parce qu'on m'a bien expliqué à quoi c'était pour servir. Cet exercice-là, il va servir à ça. Tu vas en avoir de besoin après ton opération. Fait que ça m'a aidé à me mobiliser. Et j'ai l'impression d'être utile. Tu sais, qu'en bout de ligne, là, je veux dire, tu sais, on était 15, là, dans le premier groupe, là, de cette recherche, la recherche, sur le, c'était toutes des gens qui attendaient, une opération pour une prothèse totale de la hanche, tu sais. Ben, je veux dire, ces 15-là, là, je veux dire, on va multiplier, tu sais, ce qu'ils ont fait avec nous autres, ce qu'ils savent avec nous autres, ben, je veux dire, ça, il y a déjà eu un deuxième groupe, tu sais, puis je veux dire, ils voient déjà que ça a des effets sur la participation des gens à leur guérison. C'est des compétences que j'ai acquises, que je suis capable de diffuser, je veux dire, ça de même, là, tu sais.
Émilie, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle différence ou impact ça fait de donner cette place-là à nos usagers, partenaires et peut-être à leur famille?
Certainement. En fait, les patients, quand ils partagent leur expérience, leurs priorités, bien, ils vont vraiment aider les chercheurs à poser les bonnes questions, à choisir des mesures de résultats qui sont appropriées, puis ils vont permettre aussi d'adapter les protocoles de recherche pour s'assurer qu'on reflète bien leurs besoins et puis que ça va être faisable, finalement, de mener à terme ce projet-là. Ils vont aussi là, nous permettre une meilleure compréhension des défis, de leurs besoins spécifiques liés à une maladie ou à une condition de santé. Donc, tout ça, ça peut nous amener à faire des découvertes fortuites qui vont nous amener à prendre une tangente là, qui est plus pertinente, de créer des traitements qui sont potentiellement plus efficaces. Ensuite, bien, c'est sûr que quand les patients sont impliqués dans la recherche tout au long du processus, mais la recherche, ça va être plus susceptible d'être acceptée, utilisée, tant par les professionnels de la santé que les patients eux-mêmes, parce qu'elle va être vraiment perçue comme plus pertinente, vraiment ancrée dans la pratique réelle. Et finalement, bien, pour les patients, parce qu'on est des fois, on est gêné d'impliquer les patients, d'aller les chercher, de vouloir les recruter pour un projet de recherche, mais les patients, eux, ça leur donne un sentiment d'utilité, d'autonomie, parce qu'ils s'impliquent vraiment activement dans le processus de recherche, puis ça leur permet de contribuer à l'amélioration de leur propre santé, mais aussi de la santé des autres. Donc, ils font la recherche souvent en se disant, bien, ça va aider les personnes qui vont passer après moi, qui vivent la même chose que moi.
Vous rendez ça tellement accessible, tellement concret, puis vous arrivez aussi, comme tu le dis si bien, là, à donner un sens finalement, peut-être là, pour plusieurs, à leur épisode de maladie ou leur épisode là, dans le système de la santé.
Effectivement.
Puis Mme Etu nous a bien nommé justement l'impact de son implication là, comme usagère. Donc, on va aller l'écouter.
Dans un projet de recherche, on devient plus ouvert à des nouvelles, soit des nouveaux traitements, soit des nouvelles pratiques là, de réadaptation, puis tout ça. Le fait d'être en projet de recherche comme moi, là, ce que ça l'a fait, c'est que je sais maintenant, tu sais, je veux dire, comment dire à mon professionnel, ben là, c'est pas ça le mal que j'ai, c'est plutôt ça. Ça va lui donner des indications sur A. Puis c'est pas tellement là, c'est plutôt là.
Dans ses propos, on voit bien tout le travail de collaboration et les bénéfices là, du agir avec l'usager dans ses soins.
Pour terminer, Émilie, est-ce que tu pourrais nous partager justement des conseils pour une infirmière, je dirais même pour une infirmière auxiliaire, parce qu'il y en a qui nous écoutent aussi sur ce sujet-là, je suis certaine, et qui aimeraient commencer à pouvoir contribuer ou à en apprendre davantage finalement sur la recherche en soins infirmiers?
Certainement, en fait, bien, la première chose, c'est d'utiliser la recherche, j'en ai parlé tout à l'heure, là, c'est vraiment important de... Quand on travaille fort à créer des résultats probants, des données, c'est vraiment important de les utiliser après, d'assurer un transfert de connaissances qui est efficace pour que nos nos résultats, nos données probantes soient utilisées dans la pratique. Donc, ce qu'on peut faire, en fait, ce que vous pouvez faire, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, là, mais de juste prendre le temps de regarder votre pratique clinique, de regarder ce qui se passe dans votre unité, identifier des situations qui sont problématiques, que vous trouvez vraiment importantes, pertinentes dans votre pratique courante. Vous pouvez faire ça seul ou vous pouvez faire ça avec vos collègues ou avec d'autres chercheurs. Puis, commencer à regarder, à trouver des réponses dans la littérature. Donc, juste prendre l'habitude de chercher des réponses à vos questions dans de la littérature qui est scientifique. Vous pouvez utiliser les bases de données CINAHL, Medline, PubMed là, qu'on connaît, qui sont disponibles à la bibliothèque. Ils sont peut-être pas toujours accessibles à tous. Il y a Google Scholar qui existe simplement sur votre ordinateur, qui a quand même là, une bonne multitude là, de littérature là, qui est disponible, là, qui est crédible là, quand même dans cette base de données-là. Donc, vous pouvez aller choisir quelques articles, commencer à regarder, comparer les résultats de recherche, les solutions que vous avez, que vous pourriez implanter dans votre milieu. Donc, voir est-ce que c'est transférable, est-ce qu'il y a des forces, est-ce qu'il y a des limites à ces études-là, est-ce qu'on devrait vraiment aller de l'avant. Donc, c'est, au début, ça peut être ardu, là, je comprends, lire de la littérature scientifique, mais plus on en fait, plus on devient bon, puis plus on devient habile, plus ça se fait rapidement. Donc, je vous invite là, vraiment à vous mouiller, puis à l'essayer, puis de le faire avec vos collègues, ça va vous permettre là, d'avoir des belles discussions.
Souvent, dans la revue de l'OIQ Perspective infirmière, là, il va y avoir des articles qui vont prendre justement appui sur des projets de recherche qui ont été faits. Fait que je trouve que c'est une façon plus synthétisée puis plus vulgarisée, finalement, de comprendre ces projets de recherche-là. Là.
Peut-être une bonne façon, justement, pour commencer à rentrer dans cet univers-là, là, comme tu disais, Émilie, de se mouiller, commencer à le faire, puis par la suite, peut-être qu'on peut augmenter peut-être le niveau de difficulté ou le niveau de complexité des articles ou des recherches qu'on fait.
Ouais. Puis pour contribuer à la recherche, Émilie?
Oui, c'est ça. On peut quand même aller plus loin aussi puis aller vraiment contribuer à la recherche. En fait, il y en a plusieurs projets de recherche qui se déroulent dans le CIUS de l'Estrichu. Il y en a qui sont infirmiers, il y en a qui proviennent de d'autres professionnels de la santé aussi. Il y a des médecins, des physios, des ergos. Donc, il y a plusieurs personnes qui font de la recherche dans le CIUS de l'Estrichu. Il y en a sur plusieurs unités. Il doit en avoir probablement sur vos unités, en fait, de la recherche qui se passe, que vous soyez au courant ou pas. Donc, juste de vous tenir informé, de savoir c'est quoi les projets de recherche qu'il y a sur vos unités. Réfléchir un peu, il y a souvent des résumés qui sont disponibles pour chacun de ces projets de recherche-là. Donc, vous pouvez aller voir un peu, OK, c'est qui les patients qui sont ciblés? Est-ce que je peux aider à contribuer au recrutement si je vois un patient qui pourrait être, par exemple, éligible à un projet, bien, je pourrais contacter l'équipe de recherche pour qu'ils puissent venir là, le rencontrer puis voir s'il a envie de participer à ce projet-là. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Les assistants de recherche, ils circulent souvent sur les unités pour aller voir les patients, justement. Donc, allez les aborder, parlez-leur de leur rôle si ça vous intéresse. Vous voyez comment vous pouvez contribuer plus à mener à terme là, ce projet de recherche-là. Donc, ça, c'est toutes des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez contribuer à la collecte de données. Parfois, vous allez avoir des questionnaires, des grilles à remplir. Plus ils sont remplis et bien remplis, meilleures sont nos données, plus rigoureuses elles sont. Fait qu'on peut dégager des meilleures conclusions là, au final comme chercheur. Donc, voilà. Et une fois que le projet est terminé, mais essayez de suivre c'est quoi les résultats de cette étude-là. Les chercheurs, souvent, ont fait l'effort de transférer nos résultats, de donner nos résultats. Puis des fois, bien là, nous, on vit dans notre monde de la recherche. Fait que n'hésitez pas à partager comment vous aimeriez recevoir les résultats. Est-ce qu'un résumé papier, ça vous convient? Vous aimeriez mieux avoir un courriel? Vous aimeriez mieux qu'on vienne vous parler de vive voix dans le cadre d'une conférence, par exemple, pour vous expliquer qu'est-ce que ça l'a donné, ce projet-là? Aimeriez-vous mieux un outil, synthèse? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pour vous, le transfert de connaissances? Parce que c'est vous qui êtes les mieux placés pour savoir comment vous allez l'utiliser, cette connaissance-là. Fait, je vous invite vraiment à être transparent, puis on est accessible, on est ouvert, puis on travaille tous ensemble. On veut tous sauver le monde, je pense. On veut tous le mieux de nos patients. Donc, je vous invite là, à assurer une belle collaboration, une belle communication avec nous, puis on est là pour vous aider. Donc, voilà.
Clairement, puis ça vient donner du sens aussi, notre contribution à ce moment-là.
Soins sécuritaires, réontologie, L3S, acte réservé. Ai-je le droit?
Ai-je le droit, comme infirmière auxiliaire, de décider du pansement à appliquer sur une plaie ou encore de choisir de changer le type de pansement? La réponse est non. En vertu de son champ d'exercice, l'infirmière auxiliaire est autorisée à prodiguer des soins et traitements reliés aux plaies et altérations de la peau et téguments selon une ordonnance ou selon le plan de traitement infirmier. Décider du type de produit ou de pansement à utiliser relève plutôt du champ d'exercice de l'infirmière, dont à l'activité réservée qui consiste à déterminer le plan de traitement relié aux plaies et altérations de la peau et téguments. À noter que les candidates à l'exercice de la profession infirmière, les CPI, ne peuvent pas non plus déterminer le plan de traitement de la plaie. Ainsi, l'infirmière auxiliaire doit respecter le plan de traitement documenté par l'infirmière suite à son évaluation. Les infirmières ont l'obligation d'assurer la continuité des soins en élaborant et en actualisant les plans de traitement en fonction de leur suivi et évaluation. Nous encourageons les infirmières à utiliser les formulaires d'évaluation des plaies et de plans de traitement mis à leur disposition par l'établissement. Pour plus de détails sur les activités de soins autorisées en soins de plaies, nous vous invitons à consulter la règle de soins infirmiers, pratiques professionnelles reliées aux soins de plaies, aux altérations de la peau et des téguments de 2024, disponible sur la plateforme MSI du CESS. Donc, c'est ce qui terminerait l'émission d'aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui. Donc, juste avant de terminer, on vous inviterait à entendre ce que Marie-Ève et Maude, donc les deux infirmières qui ont contribué au projet de recherche qu'on a entendu précédemment, avaient à nous dire quand on leur a demandé qu'est-ce qu'elles auraient envie de dire à leurs collègues qui pourraient hésiter de participer à un projet de recherche dans leur milieu. Donc, écoutons-la.
Que moi, j'aurais le goût de vous dire, c'est oser, impliquez-vous, c'est vraiment pas compliqué. Puis on en retire une certaine fierté aussi en tant qu'infirmière.
À une collègue qui aurait peur ou qui hésiterait à s'impliquer à la recherche, j'aurais envie de dire qu'il faut pas avoir peur justement de s'impliquer parce que on peut vraiment s'impliquer de différentes façons, à différents niveaux aussi selon notre charge de travail et selon le temps qu'on a à allouer à la participation à la recherche. On est super bien accompagné aussi par toute l'équipe de recherche.
Équité, diversité, inclusion. La Minute EDI avec Franck Boulaslage.
Neurodiversité. La neurodiversité désigne la variation naturelle des cerveaux humains, incluant des conditions comme l'autisme, le TDAH, la dyslexie et bien d'autres. Plutôt que de voir ces différences comme des défauts à corriger, le concept de neurodiversité les reconnaît comme des variations naturelles et valables de la pensée humaine. Dans un contexte professionnel, valoriser la neurodiversité implique d'adapter les environnements et les pratiques pour soutenir les talents uniques de chacun. Cela peut inclure par exemple des aménagements spécifiques, une communication claire et des politiques inclusives. En favorisant la neurodiversité, les organisations peuvent bénéficier d'une diversité de perspectives, de créativité et d'innovation accrue. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la section Équité, diversité et inclusion dans l'intranet du CIUS de l'Estrichus. Merci.
C'est ce qui termine notre épisode sur la recherche aujourd'hui. Ça a été inspirant, puis on comprend mieux maintenant comment tout le monde, finalement, dans les milieux de soins, peut participer à ces différents projets de recherche-là. Un merci tout spécial à notre invitée Émilie Gosselin et aux deux infirmières et à l'usagère partenaire là, qui ont pu participer, là, leur vécu, leur expérience. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Émilie.
Merci de m'avoir reçue.
Donc, on vous invite à demeurer à l'affût car il y aura 3 nouveaux épisodes du balado Savoir et Stéthoscope qui seront disponibles d'ici la fin de l'année 2025. Alors, c'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui.
À la prochaine!
Le balado de la Direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu, Savoir et Stéthoscope, est produit et réalisé entièrement par l'équipe de la DSI. Ce balado a été enregistré et monté dans les studios de CEFAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. Merci à eux. À la prochaine pour plus de Savoir et Stéthoscope.